France Culture.
Et on fait le point sur l'information avec le journal de la rédaction de Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après s'être fendu hier d'un clip sur les réseaux sociaux pour chanter les joies et les peines de l'année écoulée, Emmanuel Macron s'adressera ce soir à la télévision pour la traditionnelle allocution des vœux de l'Élysée, l'occasion notamment d'y défendre un projet qui lui tient à cœur, l'interdiction pour les moins de 15 ans des réseaux sociaux, justement, et ce, dès la rentrée prochaine. On parlera également fréquentation des salles de cinéma en France, mais aussi de la fin d'une époque, les chaînes de télé musicales. On s'intéressera par ailleurs à de minuscules puces venues d'Asie qui ouvrent la voie à des performances encore accrues pour l'intelligence artificielle. Enfin, toute la semaine, vous le savez, on se demande si à l'heure du réchauffement climatique, les Jeux Olympiques d'hiver sont encore d'actualité ou vont disparaître. On en parlera avec notre invité Maël Besson, spécialiste de la transition écologique du sport. Avant que le froid, glacial du mois de janvier n'emporte avec lui les restes du réveillon en même temps que les dernières miettes de l'année écoulée, Emmanuel Macron tentera de trouver encore un peu de souffle ce soir à la télévision pour lancer donc ses ultimes chantiers de dernière année pleine à l'Élysée et surtout trouver des raisons selon lui d'espérer dans un pays sans budget voté, sans majorité et où chaque débat dans l'hémicycle relève de la gageure. Alors trois priorités devraient être esquissées lors de ses vœux. La création d'une aide à mourir, l'instauration d'un service militaire, enfin l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dès la rentrée prochaine. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Un projet de loi sera discuté en ce sens au Parlement le mois prochain.
Oui Thomas, le président de la République, qui avait fait ses annonces fin novembre, souhaite aller très vite, puisque le texte sera présenté dès mercredi matin en Conseil de supérieur de l'éducation, avec, dans un premier temps, l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, ce qui doit permettre de lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire. Une mesure qui, elle seule, ne suffira pas, estiment les professionnels de l'éducation, car les adolescents pourront la contourner, par exemple, en utilisant des faux comptes. Pour Grégoire Ancel, le vice-président de la FCPE, il faut donc que le gouvernement impose aux plateformes numériques des règles très strictes et qu'il intègre également des cours spécifiques dans les programmes pour mieux sensibiliser les élèves.
Pour nous, agir, ça passe par l'éducation. Et on demande la mise en place d'un programme de l'école au lycée permettant aux élèves d'apprendre ce qu'est un réseau social, ce qu'est une intelligence artificielle, une information vérifiée, de pouvoir être sensibilisé au temps d'écran, au respect de la loi numérique. Voilà, il y a toute une éducation à faire. Et aujourd'hui, on interdit, mais on n'éduque pas.
Et puis ce projet de loi, Hakim, prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée, une mesure qui a d'ores et déjà été mise en place, tant bien que mal d'ailleurs, à la rentrée dernière au collège.
Oui, et elle ne connaît pas un grand succès, il faut le dire, car faute de moyens humains et financiers, elle n'est appliquée que dans 30% des collèges, car cette mesure nécessite d'avoir des casiers ou bien des pochettes pour ranger les téléphones portables, ce qui, au quotidien, fait perdre beaucoup de temps aux élèves avant de rentrer en classe. De plus, avec la baisse des dotations des collectivités, donc les départements pour les collèges, les chefs d'établissement préfèrent consacrer leur budget restant aux activités pédagogiques et culturelles, d'autant qu'une grande partie d'entre eux nous ont indiqué que globalement, leurs élèves respectent plutôt la règle en gardant leur téléphone dans leur sac à dos sans utiliser de casier.
Merci Hakim Kasmi. On parlait à l'instant des réseaux sociaux. Eh bien, avec la concurrence également des plateformes de streaming, c'est l'une des raisons qui justifie que le groupe Paramount Global s'apprête à débrancher d'ici ce soir plusieurs chaînes musicales de sa galaxie MTV dans une dizaine de pays, dont la France. Un choix économique donc face au recul des audiences, mais qui marque aussi la fin d'une époque pour toute la culture pop, la façon dont on faisait l'expérience à partir des années 80 de la musique à travers la télévision. Un modèle en réalité épuisé depuis déjà plusieurs années, rappelle Rhoda Chococa, motrice du livre sensible Une histoire du R&B français paru en 2023 aux éditions Audimat. Elle explique pourquoi à Jeanne Serrin.
L'attachement à la scène musicale, c'est un attachement qui peut être un attachement un peu puriste quand, dans les faits, MTV n'a pas réellement été une chaîne uniquement musicale depuis le début des années 2000. C'est une chaîne musicale, mythique, qui a permis à énormément d'artistes et des artistes très importants, que ce soit Michael Jackson, Prince, Madonna dans les années 80, à arriver sur la scène avec vraiment une proposition visuelle intéressante. Mais le problème avec la télévision, c'est que pour une chaîne, elle ne pouvait pas uniquement compter sur des clips produits par des maisons de disques, etc. Il fallait qu'elle elle crée elle-même ses programmes qui sont possédés entre guillemets par la chaîne. On pense UMTV Rap, on pense Pimp My Ride, on pense toutes ces émissions. C'est aussi les VMAs. Les VMAs, donc, qui sont les Video Music Awards. Ce sont ces moments qui étaient créés, ces moments de pop culture qui ont été créés. Donc, la chaîne musicale est une idée innovante qui ensuite a ses limites très rapidement parce qu'on arrive dans ce modèle de chaîne qui doit fonctionner au-delà de programmes qui sont acquis, mais de programmes aussi qu'il faut créer pour pouvoir avoir une certaine pérennité.
Alors, Oda Chococam, donc critique, autrice, directrice artistique, jointe au téléphone par Jeanne Serrin. Jeu télévisé parmi les plus populaires des années, là encore, 80-90, tournée manège, accompagné des milliers de Français. À l'heure du déjeuner, on l'a appris ce matin, son animatrice Evelyne Leclerc, ex-speakerine, est décédée hier à l'âge de 74 ans.
Du petit au grand écran, les chiffres de fréquentation dans les cinémas français publiés ce matin révèlent un net recul de 13% par rapport à l'année dernière.
Oui, près de 157 millions d'entrées contre 181 millions en 2024. Benoît Grossin, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
C'est une année évidemment décevante, même si on s'y attendait, mais pas non plus catastrophique.
Après une baisse continue en effet cette année, la fréquentation a repris de la vigueur au mois de décembre, avec plus de 20 millions d'entrées grâce au succès de productions américaines. Les derniers volets d'Avatar et de Zootopie, La Femme de Ménage, et aussi côté français par Le Chant des Forêts de Vincent Munier. Une dynamique qui va se poursuivre en 2026, selon Marc-Olivier Sebag, le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français.
Ce qui compte, c'est non seulement le nombre de films à fort potentiel, mais c'est aussi leur densité. Chaque semaine, plusieurs films qui s'adressent à plusieurs publics différents. On l'a eu en 2024, et donc on est vraiment dans un cycle de production qui alimente le cycle d'offres de cinéma pour les spectateurs et qui crée un cycle des fréquentations. On est dans une année de transition, on sera dans un fort rebond en 2026.
Qu'est-ce qui fait que 2026 sera plus faste ?
Il y a beaucoup plus de films porteurs dans toutes les catégories de cinéma. Le 28 janvier sort un film qui s'appelle Les Légendaires, un dessin animé pour les enfants. La semaine suivante, vous avez à la fois Le Marsupilami, un film d'horreur Silent Hill, et un film de Kelly Richards, un film à réessai qui s'appelle The Mastermind. Le 11 février, vous avez Hurlevent de Margot Robbie, adapté de Bronte, bien sûr. La semaine suivante, un film d'Alice Vinocourt et un film de Pascal Bonitzer. Vous voyez, sur toutes les catégories de films, juste sur cette période de 4 semaines, vous avez une très grande richesse de propositions. Et puis ça continue tout au long de l'année. En 2026, on va avoir L'Odyssée de Nolan, Disclosure Day de Spielberg, donc deux films des grands auteurs américains qu'on adore, et puis un récit historique autour du général de Gaulle qui s'appelle La Bataille de Gaulle d'Antonin Baudry, avec aussi des films d'animation. Super Mario 2, vous vous souvenez que Super Mario 1 avait été un immense succès. Toy Story 5, Les Mignons 3, le premier semestre, il y en aura pour tout le monde. Et surtout, on retrouve des grands auteurs, on retrouve une diversité d'offres qu'on n'a pas eue en 2025.
Et malgré cette baisse des entrées en 2025, le CNC souligne que la France reste de loin le premier marché européen, avec une fréquentation près de deux fois supérieure par exemple à celle de l'Allemagne.
Merci Benoît Grossin. La compagnie Eurostar a annoncé la reprise ce matin du trafic ferroviaire entre Londres et le continent, mais averti de possibles perturbations. En clair, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
La démonstration de force aura duré deux jours. Ce matin, l'armée chinoise a fini par retirer ses navires de guerre des alentours de Taïwan lundi dernier. Le régime de Pékin avait débuté une vaste simulation de blocus des différents ports de l'île indépendante, soit un scénario crédible. En cas d'invasion, la réunification de notre patrie est inarrêtable, a d'ailleurs déclaré ce matin le dirigeant chinois Xi Jinping dans une ultime provocation. Et c'est donc dans ce contexte particulier que le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC a annoncé ce matin avoir lancé la production de puces ultra performantes, des puces dites 2 nanomètres et présentées comme la technologie ni plus ni moins la plus avancée de l'industrie des semi-conducteurs en termes de densité et d'efficacité énergétique. Lou Bordy, bonjour.
Bonjour.
Alors, à quoi vont bien pouvoir servir ces nouvelles puces ?
Eh bien, elles vont permettre de faire fonctionner plus vite l'intelligence artificielle, rendre les ordinateurs plus rapides, permettre aux voitures autonomes de détecter plus rapidement les objets ou encore aider les centres de données à recourir plus efficacement à de grands modèles de calcul. Des micro-puces ultra puissantes pour l'intelligence artificielle, très difficiles à produire. Il faut pour ça des machines de lithographie très avancées, une connaissance approfondie évidemment du processus de production et surtout beaucoup d'argent pour investir. Résultat, c'est le leader mondial des semi-producteurs, des semi-conducteurs taïwanais qui s'en charge. Et le lancement de sa nouvelle production était scruté de près, car l'intelligence artificielle est un enjeu économique et géopolitique. Pour cause, TSMC fabrique déjà plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète et il compte parmi ses clients des géants américains comme Apple, des géants qui dépensent des milliards de dollars pour acquérir ces nouvelles technologies. Une force donc pour l'île, à tel point que la domination de Taïwan dans le domaine des puces est même considérée comme une sorte de bouclier. Cela le protégerait d'une invasion de la Chine et inciterait surtout les États-Unis, client principal, à le défendre en cas d'attaque. TSMC prévoit d'ailleurs d'accélérer la mise en place d'une production de ces nouvelles puces directement aux États-Unis.
Merci Lou Bourdi.
À partir de demain, la zone euro comptera un nouveau membre, le 21e, la Bulgarie.
Ce qui portera à plus de 350 millions le nombre d'Européens utiliser la monnaie unique, ce qui d'ailleurs, Virginie Perronon, ne suscite pas spécialement d'enthousiasme parmi les Bulgares qui ont rejoint l'UE il y a déjà près de 20 ans.
Oui, dans ce pays de 6 700 000 habitants, bordé par la mer Noire, où les salaires sont parmi les plus bas d'Europe, autour de 500 euros, et où l'influence de la Russie reste importante, les Bulgares sont très divisés. 51% d'entre eux se déclarent contre l'euro, 40% pour. La population, en particulier les retraités et les habitants des zones rurales, dit craindre une flambée des prix, comme cela avait été le cas en Croatie, dernier pays à avoir rejoint la zone euro en janvier 2023. D'autant plus que le pays est traversé par une crise politique majeure. La Bulgarie est un cas d'école. Le pays entre dans la monnaie unique sans budget. Et alors, me direz-vous, des pays sans budget, après tout, il y en a d'autres, mais aussi avec un gouvernement technique par intérim. Et surtout, le pays est en attente de ses 8e élections législatives depuis 2021. Alors au fond, selon les spécialistes, euro ou pas euro, ce n'est pas fondamentalement ce qui va changer la donne. Au mois de décembre, à plusieurs reprises, plus de 100 000 personnes sont descendues dans les rues de la capitale, Sofia, essentiellement des jeunes, pour réclamer un changement profond de la classe dirigeante. Ceux-là sont pro-européens, favorables à la monnaie unique, qui est vue, c'est vrai, comme un pas supplémentaire de la transition du pays. Mais la Bulgarie, selon les analystes, a pris du retard et en parallèle de son développement économique, elle doit désormais passer à l'étape suivante, fin de la corruption, émergence d'une presse libre et surtout d'une justice indépendante.
Légionnaire putschiste est désormais président.
Le colonel autopromu général Mamadi Doumbouya, un colosse de 41 ans, a largement remporté hier soir la présidentielle en Guinée qu'il dirige d'une main de fer depuis le coup d'État de 2021. Avec près de 87% des suffrages, ce sacre sans suspense vient ainsi légitimer un règne sans partage à l'issue d'une élection dont avaient été scrupuleusement écartés tous les ténors de l'opposition poussés à l'exil lorsqu'ils n'ont pas été arrêtée et condamnée. Enfin, elle aura marqué la vie politique de son pays durant 40 ans. Son nom, Khaleda Zia, l'ancienne première ministre du Bangladesh, figure tutélaire qui aura surtout forcé le respect de tous par sa détermination à lutter pour la démocratie, et décédée hier à l'âge de 80 ans. Une foule immense a commencé à se rassembler dès ce matin dans les rues de la capitale Dhaka pour assister aux funérailles nationales de l'ex-chef du gouvernement. À moins de 6 semaines maintenant des Jeux Olympiques d'hiver prévus en Italie, tandis que la France se prépare elle-même à accueillir ceux de 2030, ces Jeux sur neige et sur glace ont-ils encore un avenir? On dit autrement, à l'heure du réchauffement climatique, leur organisation relève-t-elle davantage du défi ou du déni? Depuis le début de la semaine, on s'interroge avec nos invités sur la pertinence de ce modèle qui semble appartenir assez largement au passé. Azaïs Perronin a sollicité aujourd'hui Maël Besson, spécialiste de la transition écologique du sport et fondateur du cabinet de conseil Sport 1.5. Selon lui, vous allez l'entendre, les JO d'hiver devraient devenir les JO de la montagne pour ne plus dépendre de la neige. Il est aujourd'hui l'invité de la rédaction.
Bonjour Maël Besson.
Bonjour.
Vous travaillez sur la transition écologique du sport depuis une vingtaine d'années. Quel regard est-ce que vous portez sur les JO d'hiver dans les Alpes françaises en 2030? Est-ce qu'ils sont en cohérence avec l'avenir des sports de montagne?
Mais le regard que j'ai, moi, sur ces grands événements sportifs, c'est que c'est un outil au service d'un territoire. Quand un territoire candidate à l'accueil de ces grands événements sportifs, c'est pour servir un projet de société, des aménagements et tout ça. Donc, pour moi, les Jeux, ça va être plutôt quel est le projet et comment il va servir le territoire. Et la transition de la montagne, l'adaptation de ces territoires de montagne au notamment changement climatique, qui va dire si finalement ils sont pertinents ou pas, s'ils ont un intérêt ou pas. à mon sens, le gros enjeu, c'est quand même, pour l'économie de la montagne, c'est de réduire la dépendance à la neige, d'avoir une diversification et de montrer qu'en fait, la montagne, elle se vit toutes les saisons et pas uniquement sur les moments d'hiver. Et donc, je suis plutôt dans une idée de dire il faut que ces jeux servent une diversification où on promeut la montagne toute l'année, y compris des sports qui ne sont pas forcément d'hiver. Il y aura toujours des sports d'hiver en montagne. Donc, ils font partie de la montagne, mais il y a un objectif de réduire cette dépendance à la neige.
Une diversification des sports d'hiver, donc dépasser les sports traditionnels comme le ski alpin pour aller vers de nouvelles pratiques.
Oui, en fait, quand on regarde des Jeux olympiques, c'est presque plus pour l'émotion que ça nous procure, le spectacle, les records, l'histoire qu'on raconte, que réellement par amour de la discipline. Je ne connais pas grand monde qui regarde uniquement pour l'amour du curling ou du patinage artistique. C'est pour tout ce que ça nous procure en termes d'émotion. Et ça, il faut le garder. C'est très, très important de garder ces moments de communion. Mais au final, on peut les avoir sur plein de typologies de disciplines, plein de typologies de spectacles. On peut très bien vibrer tout autant devant du VTT, du parapente, que devant du curling ou du bobsleigh. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les sports d'hiver, hein, il faut les garder, mais on peut avoir cette culture de diversification et d'intégrer des sports qui se pratiquent en montagne, mais pas forcément que l'hiver, et d'aller doucement vers des JO de montagne plutôt que des JO d'hiver.
On peut voir aussi une adaptation de certaines disciplines qui existent déjà aujourd'hui sur la neige, comme le biathlon par exemple.
Complètement, le biathlon est très intéressant. Il y a une bonne partie des compétitions officielles qui se font sur ski roue de toute manière. Et si on regarde l'histoire du sport ou des grands événements, ils ont toujours évolué. Ça a toujours évolué. La pratique du biathlon, comme les Jeux Olympiques, comme un match de foot, n'étaient pas les mêmes il y a 30 ans et ne seront nécessairement pas les mêmes dans 10, 20 ans, notamment au regard des évolutions climatiques.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire au-delà de l'adaptation des pratiques et la diversification pour décarboner ces JO d'hiver ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table. Il y a peut-être aussi cette idée de dézoomer un petit peu. L'événement, faut le garder. C'est ce qui nous procure l'émotion. Mais faut avoir en tête que en amont de l'événement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des circuits internationaux que les athlètes sont obligés de faire et qui génèrent beaucoup de transport aérien. Il y a beaucoup de déplacements aussi pour les entraînements. Donc, on pourrait aussi imaginer travailler sur une optimisation de ces déplacements, de ces compétitions de sélection qui se font partout autour du monde, on peut peut-être les concentrer en des points géographiques. Donc ça pourrait être un premier axe de décarbonation sans réduire pour autant l'événement des Jeux en tant que tel. Il y a la question aussi qui est est-ce qu'il faut systématiquement changer de lieu dans l'organisation de ces événements ou est-ce qu'il faut finalement avoir 2-3 hotspots où tous les 4 ans on organise, ce qui permet du coup de mutualiser les infrastructures de transport aussi pour y accéder. Donc ça peut être une piste aussi de décarbonation de ces grands événements sportifs.
Oui, ça c'est une logique qui s'applique aux Jeux d'hiver et qui s'applique aux grands événements sportifs de façon générale.
Oui, complètement. De toute façon, on peut même sortir du sport la question d'optimiser la consommation de ressources, l'impact de la fabrication d'un équipement et tout ça, c'est indispensable. Et comme les Jeux, c'est quand même un événement hors norme. On adapte un territoire, on construit des infrastructures qui répond à un besoin qui est hors norme et qui ne se reproduit jamais. Et c'est pour ça que pendant longtemps, on a eu des éléphants blancs. C'est-à-dire qu'en fait, on construisait des infrastructures très, très adaptées au jeu, mais en fait, il n'y a jamais une autre situation où on a besoin d'équipements de cette dimension-là. Donc, et là, c'est un peu la même idée. C'est de se dire, finalement, quand on construit pour ce besoin-là, comment on fait pour le réexploiter ? Soit on réduit le besoin et on se dit finalement on fait des jeux moins gros, soit on se dit on les fait toujours au même endroit pour mutualiser finalement la construction des infrastructures sportives, mais aussi des infrastructures de transport pour y accéder. Tout ça
pose aussi la question de l'héritage des jeux par ailleurs. Merci beaucoup Maëlle Besson d'être venue ici. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la transition écologique du sport.
Merci.
Et merci également à vous, Azaïs Perona. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec du soleil sur la plupart des régions, à l'exception du nord où le ciel restera très nuageux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 1 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeau. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.